Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est vraiment le moyen de protéger les siens. Dans cette période de fête de fin d'année, on aura, en passant par la case dépistage, l'assurance de ne pas mettre en danger ceux qu'on aime.
Charleville-Mézières et Le Havre proposent de tester en masse leurs habitants avant Noël. On verra comment l'initiative est perçue dans les Ardennes.
Aux États-Unis, top départ à la vaccination. Et comme chaque fois, les Américains font les choses en grand.
Emmanuel Macron joue l'apaisement face à la Convention citoyenne sur le climat. Mais il prévient, les choix pris pour l'écologie doivent être acceptables par les Français.
Calais se prépare au Brexit, tout faire pour que le passage en douane ne vire pas à l'engorgement.
Enquête fiscale en cours sur l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn. S'est-il rendu coupable d'évasion fiscale ?
L'hommage du monde du foot après la disparition de Gérard Houllier, un grand entraîneur au palmarès impressionnant.
Et puis la Ligue des Champions et le PSG qui va pouvoir prendre sa revanche sur le Barça, enfin on l'espère.
Et puis de la pluie demain sur une grande partie de la France, n'est-ce pas Anissa ?
Et surtout sur la grande moitié est du pays. Attention, les pluies seront plus fortes demain sur les Cévennes. Les Landes et le Gers sont toujours placés en vigilance orange crue. Inondation et de la douceur côté thermomètre. Je vous détaille le programme de demain à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À l'instar du Havre ce matin, Charleville-Mézières a donc lancé cet après-midi une campagne de dépistage du coronavirus.
Alors que la situation dans les Ardennes est, vous le savez, préoccupante depuis plusieurs semaines, le maire de Charleville, Boris Ravignon, attend beaucoup de cette opération qui a commencé doucement.
Les débuts sont pour l'instant tout à fait modérés. Le point, je crois, intéressant, c'est que même s'il n'y a eu, que, grosso modo, à l'heure où nous parlons, peut-être autour de 200 personnes qui se sont fait tester, on a quand même plusieurs cas positifs. Il va nous falloir compléter encore l'information, la communication sur ce sujet pour je crois, les convaincre de se rendre et de se faire dépister effectivement en masse. C'est gratuit, c'est rapide. Et puis surtout, c'est vraiment le moyen de protéger les siens. Dans cette période de fête de fin d'année, on va se retrouver avec ceux avec qui on tient le plus. Je crois que personne n'a envie de leur transmettre cette cochonnerie qu'est le Covid. Et donc, on aura, en passant par la case dépistage, l'assurance de ne pas mettre en danger ceux qu'on aime.
Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, joint pour nous par Pierre Herbulot. Pendant ce temps-là, les États-Unis, pays le plus endeuillé au monde, vient de lancer une campagne de vaccination sans précédent.
Oui, à l'image de l'Amérique, un impressionnant dispositif pour une gigantesque opération. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York et la toute première vaccination, justement, elle a eu lieu ce matin à New York.
Oui, il était 9h22 sur la côte Est. Des applaudissements pour une première vaccination dans un hôpital du Queens à New York, quartier profondément meurtri par la première vague de l'épidémie au printemps. Et la première à recevoir le vaccin s'appelle Sandra Lindsay. C'est une infirmière afro-américaine. Elle travaille en soins intensifs. Je n'ai senti aucune différence par rapport à n'importe quel autre vaccin, dit-elle. Je me sens pleine d'espoir, soulagée. La guérison arrive, la lumière est là au bout du tunnel. J'encourage tout le monde à se faire vacciner. Cette séquence de vaccination, elle est à l'image de l'année 2020, diffusée sur la plateforme Zoom, avec la présence de l'autre côté de l'écran du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Merci aux docteurs, merci aux infirmières, merci pour tout ce que vous avez fait. Je crois que le mot héros est totalement approprié. Et ce vaccin, je crois que c'est l'arme qui nous fera gagner la guerre. Les vaccinations vont s'enchaîner aujourd'hui à travers les États-Unis. Une cérémonie de lancement est prévue cet après-midi dans un hôpital de Washington. Tous les États attendent leur première dose qui ont quitté les entrepôts de Pfizer dimanche matin. Et le temps presse car les États-Unis vont passer dans la journée le cap des 300 000 morts du Covid-19.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où les grands électeurs se réunissent aujourd'hui pour désigner le futur président. Alors d'habitude, c'est une formalité, un petit peu moins cette fois-ci. Top départ officiel pour Joe Biden et fin des espoirs pour Donald Trump.
En France, sans mauvais jeu de mots, Emmanuel Macron tente de réchauffer l'atmosphère avec les citoyens de la Convention climat.
Qu'il rencontre en ce moment, c'est la troisième fois, des citoyens très remontés, on le sait, qui estiment que le président s'est moqué et qu'il ne retiendra que très peu de leurs 149 propositions, lui qui avait promis pourtant de les écouter et de suivre leurs avis.
Emmanuel Macron, interpellé par une habitante des Alpes, vous avez l'occasion de rentrer dans l'histoire en prenant des décisions fortes, alors osez, monsieur le Président, lui a-t-elle dit.
Emmanuel Macron accusé notamment de ne pas débloquer suffisamment d'argent pour la rénovation thermique des bâtiments.
4,5 milliards d'euros, aujourd'hui c'est insuffisant. C'est 22 milliards qu'il faut, quasiment tous les ans, jusqu'en 2030. 4 milliards d'euros, c'est ce que vous proposiez en tant que candidat Macron à votre élection. Ce n'est pas au niveau. Étant donné les efforts menus sur la transition écologique que vous avez fait, je me pose une question. Êtes-vous climato-cynique ou climato-sceptique ?
On peut dire en dessous de 22 milliards, ça ne le fait pas. Je pense qu'il faut juste qu'on sache de quoi on parle. On parle de l'argent public et ça n'est pas rien. C'est pas sérieux d'avoir des propos comme ça. L'argent qui est mis aujourd'hui permet d'avoir une politique qui est ambitieuse. Est-ce qu'il faut la pérenniser, l'augmenter? Je l'ai dit moi-même, oui, au-delà de France Relance.
Emmanuel Macron devant les représentants de la Convention citoyenne sur le climat. Ça se passe en ce moment au micro européen de Jean-Rémy Baudot.
Finalement, on n'aura pas l'épilogue des négociations sur le Brexit. Ce soir, les négociateurs de l'UE et du Royaume-Uni se sont mis d'accord pour prolonger les pourparlers, même si un accord paraît de plus en plus improbable. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité Thierry Breton, commissaire européen.
Les discussions se poursuivent donc à Bruxelles et sans attendre, Lionel Gougelot, à Calais où vous vous trouvez, on s'organise pour éviter un engorgement au port et au tunnel sous la Manche au moment du rétablissement des formalités douanières.
Eh bien oui, parce que tout part d'un constat. Tous les jours, 12 000 poids lourds traversent la Manche à Calais par le tunnel ou en bateau. Et vous imaginez bien que s'il faut stopper en douane chaque camion pour vérifier sa cargaison ou ses documents, eh bien ce sera rapidement la paralysie. Alors c'est pour éviter cela que les douanes, les services vétérinaires et les compagnies de ferry et Eurotunnel ont mis en place un système de contrôle numérisé. En amont de leur passage, les transporteurs devront déclarer en ligne leurs marchandises. Et pendant la traversée, on fera le tri entre les véhicules en règle qui pourront poursuivre librement leur route à la descente du bateau et ceux que l'on devra retenir pour une raison administrative ou sanitaire. C'est ce que Benoît Rocher, le directeur adjoint du port de Calais, appelle la frontière intelligente.
En réalité, la frontière avec beaucoup de documents où on est obligé de descendre avec une liasse de papier pour obtenir des visas des différentes administrations présentes sur site, eh bien, c'est une organisation qui a vécu. Et la frontière intelligente, qu'on pourrait aussi qualifier de frontière numérique, c'est une frontière où l'essentiel est dématérialisé. Donc effectivement, il y a une petite gymnastique à acquérir et des nouvelles procédures.
Alors l'enjeu maintenant, c'est que les entreprises et les transporteurs routiers de toute l'Europe s'adaptent à ces nouvelles règles de formalité douanière, faute de quoi, malgré les renforts d'effectifs, de douanes et de services vétérinaires, on risque bien d'observer des embouteillages aux ports de Douvres et de Calais.
Merci Lionel Gougelot. À Calais pour Europe 1, on apprend que Gérald Darmanin a été entendu aujourd'hui sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour viol. Notez que le Premier ministre Jean Castex sera demain matin l'invité exceptionnel d'Europe 1 à 8h15 avec Sonia Mabrouk.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Enquête fiscale sur l'ancien patron de Renault, un certain Carlos Ghosn.
Et puis le PSG qui va retrouver le Barça pour une revanche de la remontada de 2017.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal avec Isabelle Millet. Carlos Ghosn est donc dans le viseur du fisc français qui s'intéresse de près au déménagement de l'ex-patron de Renault aux Pays-Bas. C'était en 2012.
Était-ce un déménagement fictif? En tout cas, une enquête est en cours et elle pourrait aboutir à un redressement fiscal d'envergure, Aurélien Fleureau.
Oui, et ce qui est sûr, c'est que les contrôles ne sont pas terminés. La procédure a démarré en juillet 2019 et selon les informations de Libération, ce serait dans un premier temps la somme de 13 millions d'euros de biens qui ferait l'objet d'une saisie conservatoire de la part du fisc français, qui ne serait donc pas convaincu par la légitimité du changement de résidence fiscale effectué en 2012 par Carlos Ghosn de la France vers les Pays-Bas. Il est alors à la tête de l'alliance Renault-Nissan, dont le siège se situe à Amsterdam, volonté de neutralité entre Paris et Tokyo et puis choix avantageux sur le plan fiscal effectué par de nombreuses multinationales. Dans l'entourage de Carlos Ghosn, qui vit désormais au Liban depuis son évasion du Japon il y a un an, on nous explique ne pas comprendre à quoi correspond précisément cette somme de 13 millions d'euros et surtout, on fait savoir que ce changement de résidence fiscale a été fait en toute transparence envers les services des impôts, que depuis 2012, l'administration française n'a pas répondu à sa demande de changement de domiciliation, mais était bien au courant et qu'il a fallu 7 ans et l'arrestation de Carlos Ghosn avant de lancer ses investigations. Le fisc va donc devoir statuer si Carlos Ghosn aurait dû être considéré comme un résident fiscal français entre 2012 et 2018.
Précision signée Aurélien Fleureau. Il n'a jamais été joueur professionnel, mais sa carrière d'entraîneur est exceptionnelle. Gérard Houllier, dont on a appris la disparition aujourd'hui.
Oui, entraîneur du PSG, de l'Olympique Lyonnais, de Liverpool et de l'équipe de France. Il avait 73 ans.
Le foot français lui doit beaucoup, dit ce soir Noël Le Graët, le président de la Fédération française.
Écoutez, je suis vraiment, c'est un ami fidèle, quelqu'un qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Mais surtout d'une grande simplicité. Je travaillais régulièrement avec Lyon ces derniers temps. C'est un voisin, quand je suis à Paris, on habite le même quartier, donc on a l'habitude de se rencontrer. C'est quelqu'un de toujours, c'était quelqu'un de toujours aimable, de courtois et de très travailleur. Il a mis en place un système qui existe encore, qu'on a développé, mais les centres de préfaux, le développement de Clairefontaine, on lui doit énormément de choses. Son bilan est extrêmement positif, très positif. Il faut retenir vraiment d'abord l'homme élégant, l'homme talentueux, l'homme de football.
L'hommage de la du président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët. Le foot côté terrain avec le tirage au sort aujourd'hui des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quatre ans après avoir sombré au Camp Nou en huitièmes de finale retour, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche.
Oui, puisque Paris retrouvera le FC Barcelone, là encore en huitième de finale, n'est-ce pas mon cher Julien Froment ?
Exactement, c'est même devenu un classique, on peut le dire. C'est déjà la sixième confrontation en phase finale de Coupe d'Europe entre les deux équipes. Et forcément, quand on dit Barça-PSG, on pense à la remontada. 4-0 à l'aller pour Paris, c'était en 2017. Et puis, le match retour, patatras, la honte, défaite historique, 6-1, qui hante encore les mémoires des supporters et des joueurs. Il reste d'ailleurs quelques survivants de cette remontada. Ils sont 6 au total, dont Marquinhos.
Je pense qu'aujourd'hui, le club a grandi, notre équipe aussi a gagné en maturité. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, beaucoup de joueurs qui ont même pas été là pendant ces confrontations-là. Alors c'est un autre contexte, Barça est dans un autre contexte, nous on est dans un autre contexte et je pense que c'est vraiment notre histoire.
Alors depuis cette remontada, il y a surtout eu un grand changement, c'est le bourreau Neymar, le Brésilien qui est passé du Barça au Paris Saint-Germain, arraché au club catalan moyennant 222 millions d'euros. C'est désormais l'heure pour Neymar du retour sur investissement.
Sauf qu'il a une entorse.
Il
sera remis. Le PSG qui affrontera donc Barcelone le 16 février, match aller, retour le 10 mars au Parc. En rugby, la France fera face à l'ogre néo-zélandais dès les phases de poule de la Coupe du Monde 2023, Coupe du Monde qui aura lieu en France. Les Bleus sont tombés dans le groupe A, avec notamment les All Blacks et l'Italie. Et puis une dernière info très importante, Julien.
Dites-moi tout.
L'OMS, la très sérieuse Organisation Mondiale de la Santé, assure ce soir que le Père Noël est immunisé contre le Covid et qu'il pourra apporter les cadeaux comme toujours. Il n'y aura pas de restrictions, vous savez, de sortie ou d'entrée dans certains pays. Il pourra aller partout dans l'espace aérien. C'est très sérieux, c'est l'OMS. Je vous jure, c'est l'OMS.
Mais non, mais c'est rassurant comme info.
Il y a peu d'enfants qui nous écoutent à 19h13. On peut y aller. Merci Isabelle. Non, merci infiniment. Bien sûr, on pense à vous, Père Noël. Soyez généreux pour Noël. Merci Isabelle. On vous retrouve demain à partir de 18h.